On accueille, pour parler un peu de la mobilisation au CHU, Christine, c'est ça, hein ? Oui, bonjour.
Oui, bonjour.
Julie.
Bonjour.
Bonjour et Julien.
Bonjour.
Donc on va parler un peu de ce qui se passe au CHU, mais on va commencer par un petit son.
La seule chose que je souhaite, c'est de ne pas arriver un jour et de trouver une de mes collègues, quelle qu'elle soit et quelle que soit sa fonction dans Paul de Viguier, pendue dans le vestiaire. Il m'est arrivé déjà une première fois parce que j'ai eu la chance, entre guillemets, de faire un burn-out physique il y a quelques années, de retrouver une de mes collègues en position fétale devant son vestiaire à 6h15 du matin. Et je vous souhaite que ça n'arrive jamais plus. Parce que je trouve ça vraiment dépitant de travailler dans des conditions telles. C'est difficile d'arriver à porter la douleur de ses propres collègues. De la douleur d'une collègue à la douleur d'une autre, on en enregistre, on en accumule. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas entendu. Alors, par rapport au fait de restructuration et de choses, je veux bien concevoir qu'il faille faire des économies et des choses, mais pas en tapant sur des gens. Je trouve pas ça humain du tout. C'est difficile et complexe. Hyper difficile de se dire qu'on en arrive là, en fait. Parce que c'est vraiment de la mise en danger de personnel. Là, on est vraiment arrivé à des agents où, je vous assure, s'il y a 2 ans, vous m'aviez demandé si un jour elle ferait un burn-out ou qu'elle finirait par craquer, je vous aurais dit non. Pas ces personnes-là, elles sont beaucoup trop solides. Mais franchement, en une année et demie de restructuration et de choses, on a fait franchement partir ou tomber des professionnels qui étaient vraiment de très bons professionnels. Donc en fait, on en arrive sur des burn-out physiques, psychologiques et sur l'écœurement. On n'a plus envie de s'investir, on n'a plus envie d'avancer parce que ça n'a plus d'intérêt. Et j'estime que pourtant, à mon âge, je devrais pas en être. Je devrais être ravie de mon avancée et de ma carrière, mais c'est quoi ? Ça pourrait écœurer des jeunes qui débutent et qui arrivent. Moi, je les refoulerais à avoir envie de faire nos métiers. C'est plus intéressant. Pas dans des conditions pareilles. Parce que les personnes que j'ai vues en détresse, c'est pas des gens qui ont mon âge. C'est des gens jeunes et je trouve ça dommage. Donc, je voulais que vous puissiez l'entendre. Parce que c'est juste la seule chose qui m'intéresse. Que les services tournent, ils vont tourner de façon où on les fait tourner. C'est pas ça le problème. Moi, c'est cette détresse que je veux plus voir. Je trouve que c'est un peu... C'est vraiment de la mise en danger et du non-respect, quoi.
Voilà, c'est un témoignage qui a été réalisé par la CGT, c'est ça ? Donc on reçoit Christine qui travaille au pôle femmes mère couple du CHU de Toulouse. Vous êtes en grève illimitée depuis le 13 octobre pour dénoncer vos conditions de travail. Donc 2 postes supprimés l'année dernière, 3 personnes en arrêt maladie pour burn-out. Et donc une direction qui ne veut pas remplacer ces salariés-là. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu déjà c'est quoi votre boulot et qu'est-ce qui...
Alors, moi je suis infirmière depuis 30 ans maintenant, donc une vieille infirmière en fin de carrière. J'ai la chance depuis quelques années là, de travailler en consultation, donc un poste plus facile physiquement, en tout cas plus facile que les services de soins traditionnels, hein, puisque je fais plus de nuit, je ne fais plus de week-end, donc la charge de travail est un peu plus allégée, mais par contre c'est une autre façon de travailler, d'autres patients que l'on a en charge avant qu'ils soient hospitalisés. Donc, normalement, nous étions préservés, mais bon, la restructuration du service de gynéco l'année dernière a eu des répercussions sur la consultation, puisque nous avons perdu un poste d'infirmière, un poste d'aide-soignante sur les 4 postes d'infirmière et 4 postes d'aide-soignante qui existaient. Donc, déjà, on s'est retrouvés à un effectif moins important. Sur ce, ben, se sont greffées des maladies graves pour l'une d'entre nous, donc qui est arrêtée. Une aide-soignante qui est en longue maladie depuis 1 an, donc sur cet effectif de 6 qu'il restait, nous ne sommes plus retrouvés qu'à 4. Et puis là, récemment, donc il y a un mois, des agents qui tenaient le coup, mais physiquement, quand... la situation devient plus difficile, donc voilà, le travail est plus important, même sur une consultation. Et donc ces agents, ben, eux aussi ont craqué, donc on s'est retrouvé qu'à 2 agents, une infirmière et une aide-soignante du service. Donc nous avons fonctionné tout l'été, nous avons tenu l'été puisque c'était une période de congé, on s'est dit tout le monde doit partir en congé, on a fait des efforts, donc on a fonctionné bon an mal an avec des agents intérimaires, des agents qui viennent d'autres services, donc pas vraiment formés. voilà, de bonne volonté, mais moins efficace. Donc voilà, la grogne s'installe aussi, la part des médecins qui n'acceptent plus ou qui ne supportent plus que leur matériel ne soit pas effectif dans leur salle, que leur dossier ne soit pas commandé, en fait, que le travail quotidien ne soit pas assuré comme il l'était quand l'effectif était normal. Donc la grogne grandit, on voit des agents solides qui s'arrêtent et qui craquent, et on se dit mais jusqu'où ça va aller dans un service de consultation. On imagine ce que ça va être dans les services, hein. On l'a vu dans les différents témoignages, que dans les services c'est effectivement encore plus difficile. Donc non, nous menons une action, pas pour faire révolutionner tout l'hôpital, mais pour aussi nous préserver, hein, puisque j'ai bien envie de finir ma carrière entière à l'hôpital et pas y laisser des plumes.
Voilà. Ouais, parce que c'est un ressenti qui est un peu partout dans tous les services.
Oui, on le voit.
Il y a eu 4 suicides cet été au CHU.
Oui, alors effectivement, peut-être le suicide, c'est pas que l'hôpital, mais voilà, c'est l'hôpital, on y passe 8 heures par jour, des nuits, des week-ends, quand voilà, les conditions sont difficiles, il faut pouvoir tenir physiquement un rythme, c'est pas un métier facile. Donc effectivement, quand on est à bout, je pense que... Voilà, malheureusement, peut-être certaines personnes ne trouvent que cette issue. C'est grave d'en arriver là. Alors, ouais. Voilà, c'est arrivé dans d'autres professions, et on l'a vu, mais quand ça touche nos collègues, là, ça interpelle de plus en plus.
Ouais, parce qu'il y a des réductions d'effectifs, du coup, mais il n'y a pas une réduction de la masse de travail, j'imagine.
Enfin, évidemment que non, au contraire même, hein, parce qu'on a l'impression que... voilà, que... Puis les choses ont changé, effectivement, peut-être les choses sont un peu plus faciles, on a des moyens maintenant, du matériel, mais par contre, les hospitalisations ont changé, là, c'est beaucoup plus rapide, mais ça ne demande pas moins de travail, effectivement, les gens restent moins longtemps à l'hôpital, mais... les entrées, les sorties, il faut réexpliquer. Voilà, les soins en fait intensifs sont sur une petite période maintenant, alors que avant les patients restaient une semaine, et finalement au bout d'une semaine vous connaissiez très bien votre patient, enfin tout roulait, c'était plus facile. Mais là il faut recommencer toutes les 24 à 48 heures, recommencer avec un nouveau patient. Donc
d'accord.
Voilà.
Et du coup vous avez porté ces questions-là auprès de votre direction?
Oui, donc on les a interpellés sur le fait que, bon, on avait tenu hein, l'été, mais on pensait qu'à la rentrée, les solutions seraient apportées. Et non, non seulement les solutions ne sont pas apportées, et puis on nous enfonce un petit peu plus sous l'eau en nous disant qu'eh ben, on va nous enlever quelques tâches de travail et qu'en plus, on sera encore moins. Donc, du coup, donc on diminue encore plus les effectifs quand on a besoin, au contraire, qu'on nous sorte la tête de l'eau. Donc, ça, ce n'était pas acceptable. Donc, nous avons décidé, on a tenu une petite équipe et on tient tête, mais jusqu'où il va falloir aller, quoi, je ne sais pas.
Donc là, vous êtes en grève depuis 3 semaines à peu près.
Oui, depuis le 13 octobre. Voilà, donc négociation avec la direction, avec notre encadrement, qui veut bien lâcher là sur des postes effectifs, mais pas sur d'autres sujets qui tiennent, voilà, qui sont aussi importants, hein, puisque nous avons deux agents, donc dont une a une maladie, voilà, un problème d'épaule qui est reconnu maladie professionnelle, mais qui veut pas être reconnue par l'hôpital. Ouais. Voilà, une autre, un accident de travail, hein, puisqu'elle a fait une espèce de burn-out sur, lié à la situation de cet été et qui s'est aggravée. Donc l'hôpital ne veut pas le reconnaître non plus. Et puis il y a, bon là je vais parler pour moi, du coup nous étions deux agents à temps partiel. Et puis, vu les difficultés de personnel et d'effectifs, en réduisant, en fait, c'est les temps partiels sont supprimés à l'hôpital. On ne veut plus, voilà, pour assurer une prise en charge à 100%, on fait avec les effectifs qui restent. Donc, suppression des temps partiels, ça veut dire ben, que moi, qui suis en fin de carrière, j'apprécie un jour de repos supplémentaire dans la semaine. Ma collègue qui a des problèmes de santé, donc ben, ça lui permettait de souffler un jour par semaine. Voilà. Donc on est revenu là-dessus. Donc ça veut dire que sur les agents qui restent, on les épuise encore plus et que c'est un cercle vicieux, hein, que le jour où on ne tiendra pas, ben, on s'arrêtera et que les collègues qui vont rester seront encore plus en difficulté. Donc, ouais. C'est un mauvais calcul à mon avis, mais bon, je ne suis pas gestionnaire, mais on a ben là, c'est vrai qu'en face de nous, on a des gestionnaires hein, qui ont une calculette et, voilà, et qui comptent et qui ne font que compter et qui ne regardent pas la qualité des soins. C'est ça qui est dommage.
Ouais. Ouais. Et du coup, ces conditions-là, elles ont, ça a beaucoup évolué dans le temps. Enfin, c'est-à-dire qu'avant, ça se passait mieux que ça. C'était. Qu'est-ce qui a changé dans l'organisation du travail, en fait, qui fait que.
Alors, c'était différent. C'est vrai qu'il y a quelques années, quand j'ai commencé à travailler, les conditions étaient difficiles. Hein, c'était difficile. Par contre, les équipes étaient soudées. Il y avait ce qui me dont on parlait tout à l'heure, là, des temps de relève, des temps de pause où là, on pouvait rire, rigoler, et puis se ressourcer un petit peu. Hein, c'était pas aussi. C'était bon, ça pourrait paraître pour les patients parfois le fait que ça rigole dans les salles de repos, mais finalement c'est un moyen aussi de récupérer, de se ressourcer, de repartir quand vous avez en face des situations de patients difficiles, des graves maladies. Donc voilà, ces temps de repos, on est en train d'y revenir, ces temps de relève, on est en train d'y revenir, les temps partiels également. Mais enfin, ce n'est pas en épuisant les professionnels que l'on va mieux s'occuper des patients. Hein. Donc,
Je trouve aussi, dans ce qui change, alors après, je n'ai pas du tout mal l'expérience, mais est-ce qu'on s'imagine du fonctionnement de l'hôpital et puis ce qu'on nous raconte quand on y passe. Moi, j'y viens juste pour des stages. C'est aussi cette idée-là, donc on supprime des temps de repos, tout ça, et puis on supprime les équipes, le fait de fonctionner en équipe. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, je croyais que j'allais arriver dans un service et puis que les gens se connaissent, ont l'habitude de travailler ensemble, ont du temps pour parler de leur travail, de ce qui va pas, même des soins ou des patients. Et tous ces temps-là, ils n'existent vraiment pas. Et le fait même, d'ailleurs, d'être une équipe fixe, j'ai l'impression que toute l'organisation des roulements, des changements, du fait qu'il faut être très polyvalent et pouvoir un jour être à tel endroit de la maternité, le lendemain dans tel autre service, après à l'entrée, après à l'accueil, après aux urgences. On a vendu aux gens le fait que c'était valorisant parce qu'ils savaient faire beaucoup de choses, mais en pratique, ça fait qu'ils, du coup, on voit les gens, ils se croisent dans les services, ils sont contents d'avoir passé une journée à travailler ensemble, ils regardent leur planning et ils se rendent compte que seulement dans 3 mois, ils seront à nouveau sur le même roulement et dans le même service et qu'ils pourront continuer cette discussion de travail qu'ils avaient eue il y a 3 mois. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment hyper fort aussi. Et puis aussi, mais on en parlait un peu avant, enfin, t'en parlais déjà, le travail aussi en lui-même, il a changé. Enfin, le fait, moi, je trouve que c'est hyper masqué l'augmentation de la productivité à l'hôpital, qu'on vend le fait des courts séjours et de l'ambulatoire. Ça veut dire, par exemple, si on a une opération, enfin, si on a une intervention qui nécessite d'être hospitalisé, avant, on était souvent accueillis 3 jours, avec des fois des désavantages. Enfin, l'hospitalisation, c'était pas toujours tout rose, mais en tout cas, maintenant, sous prétexte de rendre les gens autonomes, on les met dehors le jour même. Et en pratique, pour les gens qui travaillent, ça veut dire que dans une semaine de travail, ils ont vu 50 patients à la place de 20, que les explications, de toute façon, même si les gens restent une journée, ou en maternité, si les femmes restent 2 jours après leur accouchement, il faut faire les mêmes soins, la même forme de prévention, d'explication, de liaison avec d'autres professionnels. Il en faut faire même plus, puisqu'on est plus pressé de le faire, donc on presse les gens, donc on a la sensation de mal faire son travail. Moi, je trouve aussi que ça joue beaucoup dans la souffrance qu'il y a au travail, parce que des fois, on est prêt à donner beaucoup, mais si en plus, en finissant sa journée, on se dit qu'on a fait n'importe quoi, on est hyper mal. Et en plus, on le fait pour plus de monde, quoi. Et du coup, c'est ces deux mouvements, on supprime les personnels et on leur demande de faire plus ensemble, quoi. Et le fait de faire tout ça ensemble, on ne sait même plus de quoi parler et qu'est-ce qui est la priorité, la souffrance des patients, la souffrance des personnels. Enfin, des fois, on ne sait plus à qui penser, moi, je trouve.
Alors, c'est vrai que moi, je travaille en amont, du coup, un service de consultation. Et tu as raison de dire que les gens restent donc, du coup, de moins en moins longtemps à l'hôpital. Donc, ce travail en amont, il est important. Nous, je travaille en chirurgie. Donc, on explique aux patients qui vont être opérés comment ça va se passer. On leur explique, on les rassure avant qu'ils soient hospitalisés. On leur explique comment ça va se passer. On leur fait les bilans. Enfin, tout est fait pour faciliter la prise en charge du patient en amont et qu'il ne soit pas, puisque sa prise en charge va être rapide. Il va sortir rapidement. Voilà, ça c'est important. Mais si en amont on explique, on ne se donne pas non plus ces moyens-là, mais après la prise en charge, elle va être déjà qu'elle est pas de moins bonne qualité, mais qu'elle est un peu bâclée parce qu'il faut faire vite. Là, j'ai l'impression depuis quelque temps de faire du travail à la chaîne, de ne pas prendre le temps avec certaines patientes, d'expliquer parce que j'ai la salle d'attente pleine à côté. Là, nous, donc notre service de gynéco prend en charge les demandes d'IVG à l'hôpital. Et donc là, effectivement, c'est des dames qui sont un peu en détresse parfois, des jeunes filles, des jeunes femmes, qui ont besoin de parler, qui craquent, qui ont besoin d'explications. Ça ne ça, on ne peut pas le faire en 5 minutes. Mais voilà, là, on est amené à faire ça depuis quelque temps, parce qu'il faut bien prendre en charge les dames qui attendent, donc qui aussi, les patients deviennent agressifs parce qu'ils attendent beaucoup, parce qu'il y a des dysfonctionnements à l'hôpital qui sont créés par ces problèmes d'effectifs, tout simplement. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de secret. Il faut mettre les moyens pour travailler correctement. Voilà, ouais. On peut essayer d'optimiser. Alors maintenant, on veut optimiser, mais il n'y a pas de secret, on tourne en rond. Hein. Notre DRH disait que c'était pas un problème, notre problème ouais. En ce moment n'était pas un problème d'effectif, mais d'organisation. Donc je ne vois pas comment quand même on peut faire pour faire à deux ce que l'on faisait à 6 ou à 8. Mais voilà, s'ils veulent nous le montrer, j'attends.
D'autant que effectif et organisation, ça ne s'exclut pas forcément.
Tout à fait. Ouais. Mais bon, ça les arrange de le croire. Hein,
ouais,
bon.
Voilà. Ouais, parce que c'est aussi c'est des questions d'organisation justement qui sont mises en place pour individualiser chacun, pour mettre chacun un peu à gauche à droite et pas faire de collectif en fait, quoi, chacun dans son coin.
La polyvalence, ouais, à l'hôpital c'est un leurre, hein, on en entend parler depuis des années, c'est sûr que ce serait bien qu'un jour il manque quelqu'un là, on le prend d'ailleurs, on le met là, sauf qu'il y a différentes pathologies à l'hôpital, il y a de la chirurgie, de la médecine, de la traumato, de l'ophtalmo, enfin, c'est bien, il y a des particularités, des matériels bien différents, enfin, des thérapeutiques. Et voilà, ça génère une angoisse, le fait de se retrouver dans un service qui n'est pas le vôtre, où vous ne savez pas où est la pharmacie, où est quels sont les numéros de téléphone des médecins à joindre. Enfin, ça et crée une angoisse, on l'a
vu. Très, très productif, parce que ça pourrait être moins angoissant s'il y avait justement le temps tout être doublé, tout ça. Ça serait
non seulement on est moins efficace, en plus on a du stress, c'est rien de positif. Donc c'est un mauvais calcul, mais on n'arrive pas à le faire. Là, eux, sur leurs chiffres et sur leurs grilles, voilà, on met un pion ici, on le met là demain parce qu'il manque quelqu'un. Mais
ouais, c'est des cases qu'on remplit.
Voilà, c'est des cases qu'on remplit, mais à l'arrivée, il y a quoi? Alors on peut comprendre que des gens craquent au point du suicide parce que, oui, on craint de faire une erreur, parce qu'on a été surmené, parce qu'on n'a pas compris, parce qu'on n'a pas suivi le protocole de ce service. Oui, ça je peux.
Sur les suicides, justement, il y a cette question toujours de dire c'est pas forcément le travail parce que peut-être qu'il se passe autre chose ailleurs. Mais j'imagine que toutes ces conditions de travail, ça a des impacts sur la vie personnelle aussi.
On y passe beaucoup de temps à l'hôpital. Bah donc, ouais. C'est sûr que s'il n'y a pas à côté quelque chose qui vous permet de prendre du recul suffisant, qu'il y a un autre problème à côté dans votre vie personnelle qui en rajoute, effectivement, oui. Mais c'est un tout. Hein, ouais. Quand on est bien au travail, on est bien aussi. Parce que les soucis, on a beau les laisser au vestiaire, ben non, ça, c'est pas, ça va un certain temps peut-être.
Et puis que, alors moi de ce que j'ai vu, vous travaillez plus qu'on vous demande. J'ai vu qu'il y avait un taux d'heures supplémentaires hallucinant à l'hôpital qui se compte en millions. C'est...
Oui, alors ça par contre, j'ai jamais fait autant d'heures supplémentaires que depuis un ou deux ans là, ouais.
Ouais,
c'est vrai. Ça, c'est vrai. Alors les temps de relève qui ont été supprimés, avant on avait un chevauchement que l'on appelle, puisqu'il y avait une équipe du matin, une équipe d'après-midi, et il y avait un chevauchement qui était prévu là avec, alors il y a eu les 35 heures, mais c'est parce que ça a été mal organisé à mon avis, mais voilà, ce temps de chevauchement a été diminué. Du coup ces temps d'échange, de relève, puis on pouvait souffler aussi, échanger avec nos collègues, c'est réduit. Et c'est vrai que ça individualise beaucoup. Et puis les effectifs étant réduits maintenant, au lieu d'être à deux sur une même plage horaire avec une collègue, maintenant vous êtes toute seule. Donc toute seule, isolée, physiquement, géographiquement parfois, vous êtes toute seule dans votre... Donc ça, effectivement, ça génère... Voilà, les conditions de travail se sont dégradées au point de générer plus de stress, à mon avis, et pas de temps pour souffler, pas de temps d'échange ou pas de...
Mais ces temps-là, ils sont clairement définis comme étant inutiles par les logiques de management actuels.
Pour celui qui n'est pas sur le terrain, oui, peut-être.
C'est une question du lean management.
Ah ben oui, mais c'est quand on regarde un papier, effectivement, ce temps de chevauchement, on pourrait l'optimiser, on est élargi la journée, mais sauf qu'il sert à quelque chose. Voilà.
On va écouter un petit son là, extrait d'un docu qui est paru sur France 2. C'est un faux dialogue en fait entre le docteur Giron, qui travaille au CHU de Toulouse, et le DRH, monsieur Barthès, sur le lean management justement.
Et notre direction a osé faire, il y a quelque temps, une séminaire pour les cadres de l'hôpital sur le lean management. Alors bon, avec d'autres, on l'a envahi, ce séminaire, pour essayer de l'empêcher. Le lean management, ça veut dire en bon français, un management par le dégraissage. Donc c'est clair, tout est dit. Et en plus, le vicieux, c'est qu'on demande aux gens d'un service de dire de combien ils pourraient se passer de personnel en se fouettant eux-mêmes et en s'auto-flagellant. Et autrement dit, allez, dites combien vous pouvez encore prendre et subir. C'est ça le lead management. C'est ce truc-là qui est le moteur et qui crée les burn-out.
Je suis assez réservé sur l'idée qu'il y a une relation totale de cause à effet entre les modes de management et la souffrance au travail des individus. Je crois que le problème est beaucoup plus complexe que ça. Et que quand on résume la problématique de la souffrance au travail, ce qu'on voit parfois, à travers cette explication-là, on est un peu pauvre en termes d'explication. Et si on ne fait pas la bonne explication, on ne va pas avoir la bonne réponse, en fait.
Et avec 22 000 emplois supprimé jusqu'en 2017, si la loi Touraine passe, ça veut dire qu'il va y avoir d'autres suicides.
Si la loi Touraine passe, donc ça, ça date d'il y a un peu plus d'un an, ce documentaire, c'est tristement prémonitoire. C'est quoi la loi Touraine? Il s'est passé quoi avec cette loi? C'est quoi le lean management?
C'est quoi tout ça? En fait, ce qui s'est passé, c'est que la loi Touraine, c'est l'outil pour supprimer ces 22 000 postes, pour supprimer des lits et pour réorganiser le système de santé. Et notamment deux choses importantes, c'est que l'hôpital ne soit plus le centre du système de santé et que la Sécu non plus ne soit pas plus le centre du système de remboursement de protection sociale. En gros, c'est ça la loi Touraine, pour simplifier à fond. Okay. Mais les deux choses ont un impact énorme. C'est-à-dire que si c'est plus l'hôpital qui est le premier, qui est au centre du dispositif, c'est le privé qui prend beaucoup plus de place. Donc le privé doit être valorisé par rapport au public. Et donc cette année-là, justement en ce moment, est en train d'être discuté l'ONDAM. Bon, c'est un peu technique, l'objectif national des dépenses de l'assurance maladie. Et pour la première fois, l'argent qui est dédié au privé est plus important en augmentation, en valeur, que ce qui est donné à l'hôpital. Donc okay. C'est très clair. On voit bien les glissements, c'est-à-dire réduire le temps, comme ça a été dit, la durée moyenne de séjour, pour que les gens sortent plus vite et aillent plus vite faire des soins de suite, en fait, dans le privé, etc., et organiser le privé. Ou alors concurrencer directement l'hôpital sur des opérations, sur des choses en particulier. On voit bien le choix qui a été fait de faire glisser de l'hôpital vers l'hospitalisation privée. Pourquoi ? Parce que une est favorable puisque les Capio, par exemple, ou des fonds de pension importants sont sur des cliniques à Toulouse en particulier, et donc plus il y a d'activité, eux, plus génèrent de profits pour leurs actionnaires, etc. Et d'un autre côté, il y a cet objectif de réduire les dépenses publiques, qui est absurde, mais qui limite l'argent qui est donné à l'hôpital public. Et qui explique ensuite, parce que entre 50 et 80%, ça dépend des établissements, ont leur budget qui est dédié au personnel. Donc la variable d'ajustement, c'est bien sûr l'effectif. Quoi. Ouais. C'est d'où à chaque fois les décisions qui sont faites au regard de la diminution de l'effectif en premier.
Ce dont le gouvernement se défend, hein, parce qu'il disait que non, on ne supprimerait pas des lits, on ne supprimerait pas des postes, oui, tout ça. En faisant 3 milliards d'économies.
Exactement.
En 2 ans.
La maîtrise de la masse salariale de 870 millions d'euros, 3 milliards d'euros sur les hôpitaux, oui, ça ne se fait pas comme ça. Ouais. Il faut absolument supprimer. Alors, l'autre chose aussi, c'est vachement important, c'est qu'ils demandent, mais c'est depuis longtemps, aux hôpitaux, d'être en auto-financement. Alors ça, c'est énorme. Ça veut dire que, normalement, il y a un besoin de santé. On définit ce besoin de santé, surtout sur une ville comme Toulouse qui augmente de 15 000 habitants à peu près chaque année. Vous imaginez, c'est comme une petite ville d'autour arrivée dans ouais. Toulouse, et chacune de ces villes a un hôpital, donc il faut adapter là les besoins de santé. Mais non, c'est plus en fonction des besoins, c'est en fonction du fait qu'il y ait la capacité de se financer ou pas les investissements. Donc en fait, c'est quoi l'autofinancement? C'est supprimer des postes, ils disent rendre des postes, pour financer les investissements. Et vous avez vu, si vous passez dans les hôpitaux, il y a des beaux bâtiments, c'est vrai que les bâtiments sont neufs, etc. Et ça, tout ça a été financé en diminuant le personnel, d'une part, et d'autre part, en faisant des emprunts sur les marchés privés.
Ouais.
BNP, Société Générale, Dexia, etc. Il y a presque 1 milliard d'investissements, de prêts qui ont été faits à ces banques-là. Donc, qui dit... et puis, surtout, un truc hallucinant, c'est qu'en 2012, notre hôpital a perdu le triple A.
Ah oui, alors ça, c'est...
Parce qu'on est une dotation Standard & Poor's qui note le CHU de Toulouse. Et comme on perd le triple A, on n'a plus qu'à A+, Les intérêts plus importants, on est à 5% d'intérêt en moyenne.
D'accord.
Et donc ce qui veut dire des intérêts payés chaque année, 15 millions d'euros cette année encore, et ça fait 450 postes d'infirmières par exemple.
Mais cette politique d'investissement là dans le BTP, c'est aussi étonnant quand même, parce qu'on met plein de sous dans le BTP, mais plus dans la santé. Mais en fait, est-ce qu'il y a vraiment besoin de ces nouveaux bâtiments et de tout ce truc?
Alors oui.
Ouais.
Ah oui, oui,
oui, ça par contre, c'est...
Il faut absolument... si tu veux, les hôpitaux, il y a eu la création des hôpitaux dans les années 60. D'ailleurs, ils avaient augmenté les cotisations sociales pour financer cette création des CHU. Les CHU ont été créés dans les années 60, mais avant, c'était les hôpitaux, c'était des hospices, des mouroirs, des choses comme ça. Mais pour créer justement une santé d'excellence et de recherche, d'enseignement, etc., du niveau qu'on a en France, qui est en train de s'effondrer, mais qui est encore d'un très haut niveau, il a fallu énormément d'investissements. Et ces investissements, ils ont été financés par l'augmentation des cotisations sociales. La Sécu a eu plus d'argent et a donc à embaucher, à construire des bâtiments. Ça, c'était les années 60. Et nous, on a eu après 70, Rangueil, par exemple, c'est un peu le phénomène de ça, avec un nouveau bâtiment moderne, etc. Et donc, forcément, depuis les années 70, la vétusté des hôpitaux est en train de s'installer. Donc, il faut un nouveau plan d'investissement majeur dans les hôpitaux. Sauf qu'il ne fallait plus augmenter les cotisations sociales. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elles baissent depuis un moment. Donc, il a fallu trouver une autre solution pour financer les investissements. Donc, le marché privé. Et donc, supprimer des postes.
Il y a eu la T2A aussi alors, avant ça, sous Sarkozy.
Encore pire, ouais. Encore pire, encore nous, on la connaît depuis longtemps au CHU Toulouse, parce qu'on était pilote sur la T2A. Super, on est toujours dans les bons coups. Et donc là, c'est l'instrument du management aussi, c'est de financer que les actes techniques. Du coup, ceux-là sont remboursés par la Sécu, mal remboursés en général, parfois moins bien remboursés que dans le privé d'ailleurs, pour mettre en concurrence. Et donc tout le temps qui a été défini là d'éducation, le temps de préparation, le temps de même d'enseignement, de temps de relève, le temps de poste, le temps de constitution des collectifs de travail, le temps de formation pour passer le métier, etc. qui était ce que tu disais de rigoler ensemble, serait-ce que pour évacuer les tensions, etc. Tout ce temps-là, il est plus rentable puisqu'il est plus remboursé par la Sécu. Donc d'un point de vue gestionnaire, faut limiter ces temps-là, faut enlever les relèves, limiter les temps de pause, limiter les temps de chevauchement, limiter tout ce qui est et mettre de l'effectif en regard de l'activité, mais l'activité technique,
pure,
c'est l'activité industrielle, et c'est là que vient le Lean, c'est que il fallait un outil pour diminuer ces temps morts. Et le Lean, c'est exactement ça, c'est diminuer les temps morts. Donc ils ont expérimenté le Lean, ça a été des finances publiques qui ont mis de l'argent pour expérimenter le Lean dans les hôpitaux. Et chacun, c'est comme une mode, ils ont pris ça, ce truc-là, mais c'est les organisations de travail qui génèrent le plus de risques psychosociaux, qui génèrent le plus de souffrance au travail, parce qu'elles enlèvent tout le côté collectif de travail, le côté sens au travail, le côté valeur au travail, ils sont que sur une logique d'efficacité, de pseudo-bon sens, c'est-à-dire mettre l'activité où ça rapporte, en fait. Voilà. Mettre le travail où ça rapporte, quoi. Alors que c'est pas du tout ça, un hôpital.
Mais cette logique d'efficacité, est-ce que c'est si efficace, justement, parce que si les gens sont pressurisés et n'arrivent pas à faire leur boulot...
C'est ça, c'est que les gens tombent, et puis avec la pointe de l'iceberg, c'est les suicides, mais il y a énormément de gens qui ont des maladies professionnelles, qui quittent l'hôpital, même là, cette année, c'est la première fois que la moitié des départs du CHU de Toulouse, pour citer que là, ce sont des jeunes professionnels qui se barrent. Alors qu'avant, c'était 75% des départs à la retraite. Mais là, on est à 50% de jeunes professionnels qui s'en vont parce qu'ils ne se retrouvent plus. Si on est venu dans l'hôpital public à un moment, c'est qu'on a voulu se déconnecter de la logique de rentabilité, de la logique financière. C'est si on fouille dans toutes nos histoires chacun, c'est ça qu'on a essayé de fuir justement, ou des expériences où on faisait de la productivité ou du business et on enrichissait des gens, et on a voulu faire quelque chose autour de nos valeurs, autour du patient en premier et de la prévention et du soin, etc. Et quand on retombe en contradiction avec ces valeurs là c'est juste insupportable, quoi. Et en plus on a un statut qui nous permet de justement pas être soumis à ça. On peut résister en tant que on a des, justement, tu parlais faire le lien avec la loi travail. La deuxième étape, c'est de casser le statut de la fonction publique, et c'est la dernière barrière qui fait que on est encore assez, on peut dire non à des pratiques, on peut résister individuellement, collectivement, à des pratiques de médecine différentes ou de médecine business, etc. Ouais. Et donc ils veulent lever ce dernier pour ne parler que pour Macron, Juppé, etc., qui sont en train d'essayer de casser, d'avancer sur ces nouvelles idéologies-là.
Donc il y a une vraie logique de privatisation de la santé, comme de tout le reste d'ailleurs.
La T2A, c'est partout, de la privatisation. Quoi. C'est ouais. du privé compatible, en fait. Ça rend l'hôpital privé compatible. Donc... Il manque que le statut. Le statut, c'est pas privé compatible, parce qu'on ne peut pas faire un plan social sur un hôpital. Ouais. Donc ils trouvent d'autres systèmes, ils virent des gens d'une autre manière. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont en maladie, ils les poussent jusqu'au bout, du bout de leurs droits, hop, après, retraite d'office ou mise disponibilité d'office, et ils n'ont plus à les payer. Mais ce qu'ils voudraient, ce qu'ils adoraient pour récupérer le triple A, c'est de pouvoir faire des plans sociaux. Et donc un statut de la fonction publique, ça ne correspond pas. Donc en fait, c'est la dernière limite. Mais il y a quand même, il y a encore des traces, y compris dans la structure de l'hôpital, de fonctionnement quand même qui n'est pas lié à la rentabilité.
Ouais. Mais on met quand même là des cadres, des managers qui viennent du privé, qui viennent de... Je lisais Danone, Pimki,
c'est ça, tout ça. Ouais, ça commence sur la logistique, et puis petit à petit, ça gratte sur les soins. Maintenant, on sait qu'il y a des managers de santé, comme ils appellent, qui viennent de logique. Même notre directrice, directrice du pôle femme-mère-couple, a dit « Moi, je ne viens pas de la santé, mais bon, c'est pareil. »
C'est pareil que les yaourts.
Ouais.
C'est pareil.
Ouais.
On gère des yaourts, quoi.
Moi, je trouve aussi, enfin, c'est lié, mais... Ça fait vraiment partie... on parle des fois, on se dit « Ah, il faudrait démontrer que c'est grave, ce management, parce que ça provoque de la souffrance au travail. » Alors que c'est une composante même du management, quand justement il y a des emplois et des espaces comme ça où on ne peut pas virer comme ça les gens, où les gens ils ne sont pas en faute, on ne peut pas les mettre en faute pour leur reprocher quelque chose, que de produire de la souffrance au travail, que de laisser sur le côté quelqu'un qui ne va pas bien, y compris dans sa vie personnelle, et de faire à tout prix en sorte de ne pas en prendre soin, de mettre les gens vachement en concurrence, ce qui fait que celle qui traîne la patte ou qui est moins efficace pour refaire les lits, ça va aller très vite, que ça crée une ambiance dans le service, qu'elle est chiante, qu'elle n'aide pas, et tout ça. Enfin, moi je trouve que vraiment, je me dis, dans le public, il reste ça à faire. Si on a des droits, on n'a qu'à produire de la souffrance et pousser les gens dehors. Donc, soit à partir pour aller ailleurs, ou bien à partir pour aller en maladie, pour aller prendre des antidépresseurs et tout. C'est hyper présent, quoi. Ça.
Mais pourquoi on dit que c'est un scénario à la France Télécom, souvent ? Parce que, en fait, à France Télécom, il y avait des statuts de fonctionnaires, ce qu'ils ne pouvaient pas virer. Donc, jusqu'en 2003, ils pouvaient partir à la retraite anticipée. À partir de 2003, fini le système de retraite anticipée, donc il fallait les mettre dehors. Ouais. Et comme disait Lombard, par la porte ou par la fenêtre.
Ouais.
Voilà. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et on est en train de vivre la même chose, en excluant, en poussant à bout tout un tas de personnel à l'hôpital. C'est pour ça qu'on ne parle pas le même langage quand on leur parle. Ils s'en foutent, mais complètement, parce que ça fait partie de la logique managériale.
Ouais. On va s'écouter un peu de musique.
Ouais.
Stupéflip, la hiérarchie.
Mais où vous étiez? Je vous cherche depuis une heure. Désolé, mais j'étais encore au self. Ils ont un très bon gratin dauphinois aujourd'hui. Vous m'avez fait perdre une belle occasion de gagner un marché. Et vous m'avez coûté de l'argent. Allô? Je sais pas ce qui me retient de vous foutre à la porte. Vous pouvez pas, désolé, je suis qu'un simple stagiaire, n'oubliez pas. C'est tout ce que vous trouvez à dire.
Attention!
Mais où vous étiez? Je vous cherche depuis une heure. Désolé, mais j'étais encore au self. Ils ont un très bon gratin dauphinois aujourd'hui. Vous m'avez fait perdre une belle occasion de gagner un marché. Et vous m'avez coûté de l'argent. Allô? Je sais pas ce qui me retient de vous foutre à la porte. Vous pouvez pas, désolé, je suis qu'un simple stagiaire, n'oubliez pas. C'est tout ce que vous trouvez à dire. Ouais. Allez vous faire foutre.
Ah bah la hiérarchie, pour tous les mecs qui sont dans les coins, hiérarchie. Oh.
société fonctionne comme ça, hein. Excuse-moi, mais c'est genre t'enfonces des portes ouvertes.
Retour au plateau, donc c'était Stupéflip à Balai Hiérarchie. Julie, tu parlais là en antenne de cette sensation de, quand tu arrives à l'hôpital, un peu d'être, d'être à l'usine. Est-ce que tu peux nous détailler un peu ça?
Mais on discutait de ce que ça voulait dire aussi quand on arrive dans ce milieu-là, quand on est jeune. Je pense que le CHU aussi, il y a beaucoup de personnes qui commencent leur, leur vie professionnelle en passant comme ça à l'hôpital public. Et moi, j'ai trouvé... Que quand on arrive par exemple à Purpan où il y a une concentration d'activités qui est énorme en fait finalement. J'ai l'impression qu'avant il y avait beaucoup plus de sites de des hôpitaux publics de Toulouse à Toulouse. Maintenant un peu tout est au même endroit et quand on arrive on nous dit qu'il faut aller dans tel service et il y a beaucoup de choses qui sont faites je trouve pour faire qu'on ne sait pas où on est, on ne sait pas vraiment qui nous accueille, on ne comprend pas qui sont les personnes parce que le lendemain, quand on revient, ce n'est pas les mêmes. Et donc, on se sent un peu comme à l'usine dans le sens, on reconnaît les gens qui sont des travailleurs parce qu'ils ont, ils sont identifiés par des blouses. On sait la tâche qu'on a à faire la journée où on fait la tâche. Parfois, c'est assez difficile de comprendre dans quel... dans quoi ça s'inscrit, en fait, qu'est-ce qui est arrivé aux patientes avant que je les vois, qu'est-ce qui va leur arriver après, tout ça. C'est-à-dire qu'il y a, il y a quelque chose aussi de la morcellation des tâches qui fait aussi penser à l'usine. C'est-à-dire que du coup, on ne comprend pas trop le sens des fois de ce qu'on vient de faire. On ne sait pas trop qui sont nos collègues, quelque part, ça veut dire. On sait avec qui on travaille, mais qui est-ce qu'on peut aller voir si on a des questions, si on ne comprend pas, si on n'est pas bien, tout ça. C'est dans ce sens-là que ça fait penser à l'usine. Et puis moi, ça m'a aussi beaucoup fait penser à l'usine parce que c'est super hiérarchisé comme espace de travail, parce qu'on attend son planning, on le quémande, on espère un changement. Enfin, il y a quelque chose de très lointain quoi, pour pouvoir organiser son travail que je n'avais pas connu ailleurs et qui me paraît concerner beaucoup, beaucoup de monde au même endroit. Quoi. Voilà.
Donc c'est ça, il y a vraiment une logique de taylorisation un peu du
travail.
Ouais,
c'est hyper rentable dans un même endroit quand on est au bloc accouchement, il y a finalement une trentaine de personnes qui travaillent ensemble, qui se parlent très peu, parce que celles qui se parlent, c'est celles qui font les mêmes tâches, qui doivent s'enchaîner avec les autres, mais les autres n'ont pas exactement le même roulement au niveau des horaires, donc ils ne vont pas se parler. Par contre, il va falloir que ça roule au moment où on se croise dans la salle. Enfin, c'est très mécanique, comme ça, un peu, comme ça fonctionne. Bon, c'est un peu un aparté, mais au fond, quand même, maintenant, ça me paraît presque évident, on intègre ça, et quand je suis arrivée, ça me choquait beaucoup que ce soit comme ça qu'on produisait de la bonne santé, quoi. Et j'y crois pas tellement qu'on produit de la bonne santé, toujours comme ça.
Et du coup, ça produit aussi une individualisation des personnels, où chacun se retrouve face à sa tâche et face à...
Ouais, seul, quoi.
Ouais. Ce qu'on disait aussi tout à l'heure, sur les temps où on peut pas discuter.
Voilà. Ça. Ouais, après avec le temps ça évolue, on en parlait de ça aussi, mais comme finalement ce temps de mise à l'épreuve, ce temps de Voilà, c'est ça. Est-ce qu'au bout d'un moment, je vais avoir l'impression que c'est chez moi, c'est-à-dire que c'est mon travail, que c'est grâce à moi que ça marche, que c'est grâce à moi que ça fonctionne, et que du coup, j'ai le droit de dire que ça, ça va pas, que ça, c'est pas la bonne chose à faire. Et je pense qu'il faut des années, c'est ce que tu disais aussi, pour faire sa place de professionnel, sa légitimité. Donc de là, après, à ouvrir sa gueule pour dire qu'il faudrait plus de postes, tout est fait pour que ce parcours, il soit vraiment...
Ouais, c'est ça, du coup, comment on fait pour s'organiser dans ces conditions-là?
Ah, pour s'organiser syndicalement, etc. C'est pas simple. Hein. Déjà, le droit de grève est très limité, puisqu'il y a les services minimums, etc. Même si, justement, la consultation, ça marche, puisqu'il n'y a pas de service minimum, puisque il faut qu'il y ait... On ne peut pas faire grève sur des services de réanimation ou d'urgence, c'est normal. Ouais. Mais ça pose... Enfin, il y a plein de gens qui disent, mais faire grève, on ne peut pas, puisque ça ne gêne pas et donc ça n'a pas de poids, etc. Donc, faire un mouvement de grève sur un hôpital, ce n'est pas évident. Médiatiser, ça marche pas mal, puisqu'on a en général les gens qui nous soutiennent. Comment on s'organise? Le fait de rien que d'ouvrir sa bouche, de parler, etc., ou de faire ne serait-ce que des fiches de signalement d'événements indésirables ou des choses comme ça, c'est... réprimé, mais d'une façon terrible, quoi, on te tombe dessus direct. Donc c'est vrai que c'est pas facile ne serait-ce que de par le droit d'expression, par tout ça. Nous, ce qu'on arrive à faire, c'est via le CHSCT, via les conditions de travail, cet organisme qui a du poids, puisqu'il y a un peu plus de... ils ont la responsabilité quand même pénale sur la santé au travail des agents, même s'ils n'ont pas le délit d'entrave qu'a le privé, ils peuvent quand même aller jusqu'à être condamnés pour faute inexcusable de l'employeur. Donc en fait, ils ont un peu la trouille de ça, et le CHSCT offre aussi des possibilités d'avoir du temps de délégation pour certains qui veulent, de pouvoir faire venir les agents pendant la réunion de CHSCT, de poser des dangers graves et imminents, ce qu'on a fait. Et ça, c'est quelque chose qui les contraint d'une certaine manière. Et ouais, c'est autour de ça qu'on arrive à constituer un peu des collectifs, justement, à retrouver un peu de façon de résister collective. Mais il y a beaucoup, ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de résistances individuelles qui sont souvent très réprimées, qui sont souvent... les gens se sentent un peu seuls. Et ce qu'on voit souvent quand il se passe quand il y a des articles, qu'on a fait des interviews, les gens nous disent « Ah, mais on n'est pas tout seul à penser ça, parce qu'il y a d'autres gens qui pensent la même chose. » Vraiment, c'est très isolé, très compliqué. Et c'est très compliqué de faire du syndicalisme, en général, à l'hôpital, c'est vrai.
Comment s'est passé, vous, pour vous mettre en grève, du coup?
Alors, on est une petite équipe et on n'était plus très nombreuses à travailler, mais bon, là, on était à bout et donc on a demandé de l'aide aux représentants syndicaux qui nous ont bien épaulés. Mais notre seule manière de nous faire entendre, même si c'est encore dur, c'était de faire grève. Alors, c'est un service consultation. Alors, en même temps, on est soignants. Faire grève, c'est jamais simple. Nous ne sommes plus des nonnes depuis longtemps, mais quand même... Il y a quand même l'esprit, voilà, on est soignant, on pense aux patientes qui viennent et qui vont devoir repartir sans être prises en charge peut-être. Donc, on n'est pas très bien face à ça, on a plutôt l'habitude de poser une heure ou deux heures de grève, jusque-là. Mais là, non, la seule façon de nous faire entendre, c'était cette solution, faire grève. On voit bien quand même avec ça, ça ne marche pas vraiment. Donc on se dit, mais qu'est-ce qu'il va falloir faire pour qu'ils nous entendent?
Ça s'est passé comment avec votre hiérarchie, du coup, quand vous avez déposé cette grève-là?
Ah ben déjà, nous n'avions plus de cadre direct infirmier. Nous n'avons plus, puisqu'elle était partie, et qu'on n'en avait pas. On n'avait pas de remplaçant pour l'instant. Et que ce n'était pas prévu, a priori. Après, on a un cadre supérieur qui était notre interlocuteur et qui a fait... qui n'était pas contente, mais qui a fait...
Qui a essayé
de compenser notre absence, tant bien que mal. Et puis, voilà. Mais... Alors,
En pratique, il se passe quoi quand vous êtes deux maintenant au service de gynéco, là, et que vous êtes absente depuis le 13 octobre?
Là, il n'y a rien. Hein. Ça veut dire que les médecins consultent, voient leurs patientes qui arrivent. Mais donc nous, notre mission, c'était les chirurgiens qui voient des patientes en vue d'une intervention. Donc, ils les renvoyaient vers l'infirmière donc pour leur expliquer, programmer l'intervention, prendre rendez-vous avec l'anesthésiste et faire les bilans demandés. Puis donc ça, c'est pas fait, effectivement. C'est fait par la secrétaire du médecin, mais la patiente repart dans la nature Voilà, et va aux informations toute seule.
Ils ont tenté de vous assigner aussi.
Alors on attend. C'est pour ça que je me demande. Voilà, donc, notre mission, puisque c'est surtout dans le cadre des IVG, hein, que là, c'est un petit peu plus problématique, puisqu'il y a un délai légal pour l'IVG en France, et donc les dames, il fallait les voir quand même avant cette date limite. Donc, comme il n'y avait plus d'infirmières, ben, j'ai été assignée par huissier à la maison, donc pour me demander d'aller travailler pour assurer cette mission.
Ouais,
donc
c'est un peu la violence du management.
Problème de communication. Il disait un cadre qui avait des problèmes de communication, mais c'est vrai que.
Mais je vais exercer une autre violence, c'est qu'on va devoir s'arrêter.
Non.
Donc manif demain à 14h à Saint-Cyp, tu disais qu'il y aurait du monde.
Ouais, il y a beaucoup de grévistes en tout cas, de ce qu'on sait, et puis beaucoup de gens remontés, c'est à l'appel de tous les syndicats, plus des syndicats ou des associations de professionnels, il y aura même des infirmières libérales, il y aura même le secteur social aussi qui est touché par la baisse de l'ONDAM, etc., dont je parlais tout à l'heure, le médico-social en particulier. Et ça va être vrai. Il y a un an, en Espagne, il y avait eu des marées blanches. Je ne sais pas si vous savez, ils avaient essayé de vendre des hôpitaux, les privatiser et les vendre. Et un an de mobilisation en Espagne avait réussi à enlever la loi, une loi pourrie qui ressemble à la loi santé d'aujourd'hui. Et donc on a un peu d'espoir, c'est que si on a toutes ces blouses blanches dans la rue, que ça peut faire reculer le gouvernement, surtout en période préélectorale, on a pas mal d'espoir.
Bon. Eh bien, à demain alors.
Mais oui, à demain.
Au revoir.
Au revoir.